Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Le mois de novembre vient de s'achever, il a été très riche en événements et en émotions sur tous les fronts. Nous en sommes d'ailleurs largement fait l'écho dans cette émission, mais vous allez voir que décembre s'annonce très dense lui aussi, et ce, dès le début du mois. Il va y avoir par exemple un concert tous les soirs entre vendredi et lundi prochain, excusez du peu. Nous allons vous présenter ce copieux agenda dans le détail tout à l'heure avec mes deux invités du jour. Tout d'abord, toujours fidèle au poste, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, je retrouve avec grand plaisir Serge Krichevski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et vice-président des Clés de Saint-Pierre et président de Musique au Palais. Justement, la sixième édition de ce festival s'est déroulée ce week-end au Palais Niel. Nous allons revenir sur sa programmation et les six concerts donnés dans ce lieu magnifique. Place donc maintenant à l'actualité récente en compagnie des deux Serge. C'est parti pour notre traditionnelle rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Comme je viens de vous l'annoncer, nous ouvrons cette rubrique en revenant sur la sixième édition de Musique au Palais qui a donc eu lieu ce week-end au Palais Niel. Trois concerts le samedi après-midi, trois concerts le dimanche après-midi et une programmation de musique de chambre qui faisait dialoguer les compositeurs européens de la fin du baroque au début du XXe siècle, en passant bien sûr par les classiques et les romantiques. Nous avons tous assisté à plusieurs de ces concerts, mais comme vous êtes à la fois le président et le directeur artistique de ce festival, Serge Krichevski, je vais vous demander d'abord de partager avec nous vos impressions et de faire un petit bilan de cette édition 2021. Je tiens à souligner, pour ma part, la grande qualité des artistes programmés, que ce soit les grands amateurs, les élèves de conservatoire ou les musiciens professionnels qui se sont produits samedi et dimanche. Vraiment, nous avons eu droit à des prestations de très bon niveau tout au long du week-end.
Merci beaucoup Eric. Alors c'est vrai que c'est un des défis de ce festival, c'est d'unifier à la fois la programmation, mais aussi les interventions de musiciens qui en sont à des stades très différents de leur carrière. Et il semblerait que le public ait été plutôt vraiment satisfait. Les musiciens qui découvrent ce salon et son acoustique sont toujours quasiment unanimement ravis d'y jouer, d'y rejouer, comme par exemple Vincent Martinet qui a joué maintenant depuis plusieurs années, mais ceux qui le découvrent aussi. Bien entendu, le public qui ne connaissait pas, enfin peut-être le Palais Niel de réputation, mais sans y être forcément entré, qui ne connaissait pas l'acoustique du salon et l'ambiance de ces concerts du festival fin novembre sont vraiment la plupart d'entre eux enchantés. Vraiment, enfin il y a peu de.
Ah moi je n'ai eu aucun retour.
Il n'y a pas de retour négatif véritablement.
Non, bien au contraire. Et Serge Chauzy qui était présent le dimanche peut en témoigner.
Absolument, je peux en témoigner. Tout le public était ravi, absolument.
Alors, je l'ai dit, il y a des grands amateurs, il y a des élèves de conservatoire et il y a donc des musiciens professionnels qui sont programmés à Musique au Palais. On va commencer par les grands amateurs. Il y en a qui m'ont vraiment bluffé. Il y en a un qu'on connaissait bien, c'est Ariel Sirat, pianiste. Et bien, on en a découvert un autre, François Schwarzentruber, autre pianiste que l'on découvrait donc cette année. Alors lui, il a joué Bénédiction de Dieu dans la solitude de Franz Liszt le samedi, puis la sonate numéro 8 en La mineur 410 de Mozart. Le dimanche, Serge Chauzy, vous étiez là le dimanche, il vous a complètement soufflé ce garçon.
J'ai trouvé ahurissant la maturité de son jeu, non seulement la qualité technique, qui est tellement parfaite qu'on l'oublie, d'ailleurs, ce qui est une très belle chose, et donc les qualités de musicalité, en particulier dans cette sonate, la huitième, la mineure. Il a déployé une telle palette de nuances, une telle profondeur de l'expression musicale, mais digne d'un grand soliste. Donc vraiment, alors n'oublions pas qu'il est maître de conférences en informatique.
Oui.
C'est ça, ça son travail principal. Et donc, entendre une telle qualité de musique, donc là, moi ça m'a bluffé complètement. C'était vraiment excellent.
Et je pense que vous n'étiez pas le seul. Alors, Serge Krisewski, d'où il nous arrivait ce garçon?
En fait, je suis tout à fait vraiment particulièrement heureux de ces retrouvailles avec François, puisque je l'ai connu complètement par hasard à l'époque où j'ai commencé à diriger, en l'occurrence l'orchestre du club musique de l'ENSET, donc l'école d'ingénieurs, dans laquelle il n'était pas, parce que lui était en thèse à l'UPS, mais il avait des amis dans ce club de l'ENSET, et donc il s'est trouvé présent, il a fait quelques petites parties de clavier dans l'orchestre, et puis il y a eu la possibilité de monter un concerto. J'ai proposé d'abord par mouvement séparé, puis ensuite en entier, le troisième de Beethoven, puis le quatrième. Et en fait, il avait le profil idéal pour le faire, et puis j'ai rapidement vu qu'il tenait très très bien le choc. Et même au niveau du quatrième concerto qu'on a fait en second, c'était pas lui qui était prévu. Et puis en fait, la personne qui était pressentie n'avait vraiment pas le niveau, et François a assimilé le concerto très rapidement, on peut dire. Et il a toujours adoré, évidemment, travailler et faire du piano à côté de sa carrière. Et je l'ai retrouvé un peu par hasard, tout simplement par Internet. Et puis j'ai appelé à son bureau où je suis tombé sur lui. Et il a été lauréat dans la catégorie amateur du même concours que Vincent Martinet, concours de piano en Île-de-France. Alors ça m'a permis de le retrouver aussi. Il y a d'ailleurs les épreuves qu'on peut voir sur Internet où il joue du Mozart, pas cette sonate mais une autre. Et puis effectivement il y a quelques vidéos de ce qu'il fait par lui-même. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer, puisque je cherchais des amateurs d'un très bon niveau. Est-ce que tu serais intéressé, etc., de venir? Et puis lui, il ne connaissait pas le Palais-Niel. Il avait des contacts encore professionnels à Toulouse, mais je pense que ça a été vraiment pour lui l'occasion de revenir dans cette ville. Et puis il a été absolument ravi vraiment de l'accueil de la salle, un vrai, vrai plaisir pour lui
avait
aussi.
Il a l'air très heureux d'être là, il s'est beaucoup intéressé aux autres concerts aussi, on sent que c'est vraiment un passionné, quoi.
Je pense que c'est un garçon qui a une personnalité à la fois très attachante et forte, très forte.
On l'a entendu, absolument. Il est complètement habité par la musique. Alors, vous évoquiez Vincent Martinet, lui aussi s'est produit lors du premier concert. Il a joué Gaspard de la Nuit, ce qui, a priori, quand même pas chose facile. Mais il a encore démontré qu'il continue sa progression, ce garçon. Il est toujours, je crois, élève à...
CNSM, je pense, Denis Pascal, mais il est en master 1 ou 2 ou 3, ou je ne sais pas.
Très, très belle prestation aussi lors de cette...
Serge, vous ne l'avez pas entendu, mais parce qu'il a joué le samedi. Il a joué deux fois le samedi, il a joué également avec ses collègues, comme il nous avait fait le plaisir d'avoir des collègues de Paris en 2019. Là, il est venu avec un clarinettiste et un violoncelliste. Ils ont fait donc très beau duo de Weber, clarinette, piano, et puis le trio de Brahms.
Magnifique aussi, avec une grande amateur, je ne sais pas comment il faut dire, Anne Marty.
Oui, Anne Marty avec Antonin Udrisier, qui nous ont fait le plaisir de faire entendre la transcription pour violoncelle des Fantasiestück de Schumann. Vincent Martinet, ça fait bien longtemps, moi je l'avais connu grâce à un de ses professeurs, Éloise Urbain, qui m'a d'ailleurs aidé dans une partie de ce programme, pour notamment le concert de chant. Eh bien, ça fait un moment qu'on a en projet de jouer le concerto numéro 18 de Mozart avec l'orchestre L'Enharmonie. Et a priori, ça devrait se faire le 18 janvier. Et puis, on le rejouera également à Seyss au mois de mars. Mais on est très impatient de faire cette collaboration avec lui au CHU.
Un musicien aussi très doué, très attachant à l'école du piano à Toulouse. Ça marche toujours très bien. Et puis, puisqu'on parle de piano, le samedi, c'est terminé avec le récital de Jonas Vito, qu'on avait déjà eu l'occasion d'entendre il y a 2 ans, en clôture du festival 2019. Alors, rappelez-nous ce qu'il a joué, c'est un programme très varié.
Oui, alors il a commencé comme un petit peu en parallèle au concert de samedi à 14h30. Il a commencé le soir par un hommage à Jean-Sébastien Bach par Ferruccio Busoni, donc le choral Ich ruf zu dir, que Busoni a adapté pour le piano. C'est un choral pour orgue. Il n'a pas changé grand-chose, mais il a juste retiré le pédalier de l'orgue et il a concentré un tout petit peu. Donc ça a commencé par ça. Il y a eu ensuite, alors il y avait la sonate La Tempête, mais je crois en deuxième partie avec les Debussy.
Oui, oui.
La sonate La Tempête, ensuite il y a eu...
Il y a eu César Franck.
Voilà, il y a eu César Franck avant Debussy. Donc en fait, effectivement, Bach, Beethoven, hein, c'est ça. Et après, peut-être un petit entracte, puisque moi j'étais à la Symphonie de Mahler, donc il y avait le prélude choral, prélude variation.
Alors c'était Bach, Franck, Beethoven après, je crois, d'accord, si je ne me trompe pas. Et donc après, les Debussy, oui. Images...
ouais, voilà, les images du livre 2, voilà. Et puis effectivement, un petit triptyque de Franck qui faisait écho à ce qu'avait joué Ariel Syrah, prélude, chorale et fugue. Voilà. Oui, ben Jonas, un pianiste extrêmement talentueux, tellement sympathique et aussi humble, aussi. Hein,
oui. Qui...
Professeur au CNSM de Paris, qui je pense, enfin j'imagine...
Excellent accompagnateur aussi pour la mélodie.
Le plaisir que ses élèves doivent avoir à la manière aussi dont il nous a présenté les morceaux.
Là, il a présenté tous les morceaux lui-même.
Très clairement. Mais on l'a déjà entendu.
On le connaît à Toulouse. Encore il vient, heureusement, passionné. Il vient souvent en dehors du Palais Niel. Il vient
Théâtre du Capitole.
Au Capitole. Oui, il est très proche du cercle de Christophe
Gresti, absolument. Et donc, il nous a joué sa transcription piano
prélude,
du prélude à la première faune. Extraordinaire. Une réussite. Moi, je connaissais
celle-là. Il avait joué à deux pianos avec Nino Pavlenichvili, qui est la version originale, arrangée depuis la version orchestre. Mais là, il a fait une version pour lui-même. Une
version très dépouillée, très debussiste, je trouve. Je pense que Debussy aura apprécié. Il nous a joué en bis une pièce de Georges Enesco, ce qui était... pour le moins original. Voilà, donc pour saluer encore une fois le talent de Jonas Vito et son beau récital au Palais Niel, voici un extrait de son CD Debussy. Il s'agit d'une œuvre de jeunesse du grand compositeur impressionniste, une mazurka composée en 1890. La Mazurka de Claude Debussy, interprétée par Jonas Vito, un extrait du beau CD qu'il a consacré au grand compositeur français, où l'on trouve également cette fameuse transcription que le pianiste a réalisée du prélude à l'après-midi d'un faune, entendu samedi au Palais Niel, et dimanche, l'après-midi a commencé avec un concert dédié au lead et à la mélodie, deux genres qui ont beaucoup dialogué de part et d'autre du Rhin. C'était donc le troisième dialogue entre compositeurs européens, illustré par quelles œuvres et quels interprètes, Serge Krichevski.
Alors, on a commencé donc par la troisième ballade de Chopin. Là, on a entendu Debussy jeune à l'instant. Il faut bien que les compositeurs se forment comme les musiciens. Là, on a une musicienne très jeune qui va bientôt se présenter au CNSM de Paris, Amma Martin, qui nous a joué cette très belle ballade numéro 3. Alors, elle était suivie, cette ballade, par 10 extraits de Les Myrtes de Robert Schumann, un cycle de 1840. Beaucoup plus développé, mais 10 étaient peut-être il a choisi les plus beaux probablement. Martin Keval, un jeune baryton qui va faire son chemin très très certainement, nous n'en doutons pas.
Oh oui, très belle voix, hein.
Voilà.
Martin Keval.
À la fois solide, sonore,
voilà, voilà.
Et puis une très belle prononciation.
Et puis voilà, aussi une manière quand même aussi de présence, hein, d'habiter
oui.
aussi
oui,
la scène.
Absolument. Hein.
Voilà,
oui,
voilà.
Absolument.
Donc à la suite, nous avions plutôt l'univers français, avec donc la fin des années 1880-90, avec Henri Duparc et Fauré. Voilà, deux Duparc, deux Fauré, plus quelques petites pièces, la Sicilienne avec Jeanne Fauveau, et puis une seconde pianiste qui alternait avec Amma Martin pour accompagner Martin Keval, Julie Sotiropoulos. Nous les remercions toutes et tous pour ce beau concert.
Voilà, de jeunes talents en devenir,
oui, oui,
et déjà plus qu'en devenir.
Oui, et puis on a eu un droit à un bis.
Ah oui.
Bis de Martin Keval,
oui.
il a chanté la chanson romanesque qui est tirée du cycle Don Quichotte à l'Uliciné de Maurice Ravel. Ça faisait un troisième compositeur français.
Et oui, Ravel après Fauré, Ravel qui fut l'élève de Fauré.
Et oui.
Alors à 17h, on a eu un intermède pianistique et mozartien, un intermède en clair-obscur. On a retrouvé François Schwarzentruber et Ariel Sirat. Alors ils ont joué, comme je le disais tout à l'heure, la sonate numéro 8 en la mineure 410 pour François Schwarzentruber, et puis donc la numéro 11 en la majeure de Mozart toujours. Et bon, bah, c'était très bien, encore une fois.
Ah oui,
et puis
oui.
C'est intéressant de voir ces deux œuvres en miroir, évidemment.
Oui, oui,
oui,
bien sûr.
Oui, oui, qui ont des caractères opposés, hein, en quelque sorte. La première qui est assez dramatique, assez...
Bah, vu les circonstances de sa composition,
c'était
oui, bien
sûr.
La mort de la mère de Mozart à Paris.
Et, oui, voilà. Et la deuxième qui, bon, qui se finit par la fameuse
marche turque,
enfin à la Turca, donc... et donc on attendait ça et on a retrouvé Ariel Sirat, qui est un grand pianiste, hein, on connaît bien, hein, et qui joue Mozart avec une certaine autorité. C'est-à-dire il n'en fait pas une petite chose mièvre. Hein, vraiment,
ah, il m'a dit lui-même, il faut prendre des risques quand on joue Mozart.
Oui, bah, il les prend et il les assume, et donc tout à fait intéressant.
Voilà, et donc ce festival 2021 s'est terminé avec le concert de clôture du Quatuor Séléné, un quatuor à cordes formé par quatre musiciennes de l'Orchestre National du Capitole, qui ont donné un programme intitulé « Au Salon Razumovski », du nom du fameux mécène russe de Beethoven. Et là encore, ça a été impressionnant en termes de cohésion et de qualité musicale, surtout lorsqu'on sait qu'il s'agit de musiciennes d'orchestre symphonique, dont la musique de chambre est en quelque sorte une activité secondaire, au sens où il ne s'agit pas de leur activité principale de musicienne.
Oui, mais moi je suis certain que cette cohésion, elle est due à leur participation à l'orchestre. Et donc, il y avait une précision et une cohésion vraiment admirable entre les quatre voix et un équilibre parfait entre encore une fois entre les quatre voix et puis l'originalité de leurs choix musicaux, c'est-à-dire là aussi elles prennent des risques, hein, elles ont joué ces deux deuxième quatuor de Borodine qui n'est pas si souvent joué.
Non, moi je l'ai découvert d'ailleurs
peut-être le cœur de cette œuvre, c'est le Notturno, qui est d'une beauté magnifique. Et puis ensuite, le septième quatuor de Beethoven, qui n'est pas des plus faciles, hein, et donc qui fait partie des trois quatuors dédiés justement à Razumovski. Et donc, là aussi, avec un engagement impressionnant de leur part, hein, trois grandes musiciennes.
Voilà, alors peut-être un dernier
On aimerait juste, on va essayer de faire encore un effort sur la diffusion, mais que le salon qui n'est pas très grand, hein, qui fait environ 100-120 places, soit encore plus rempli l'an prochain. Hein, c'est pas facile, c'est un lieu vraiment à découvrir et pour toucher les gens, on a la radio, c'est très bien, c'est vrai, mais les moyens sont pas si nombreux.
Vous parlez d'une communication qui sera encore à élargir pour toucher un public plus large.
Oui, mais cette année, il y avait en plus un cas particulier quand même.
Absolument,
l'épidémie est toujours là.
La crise sanitaire a touché absolument tous les secteurs de la vie culturelle.
La reprise des contaminations,
c'est inévitable.
Malheureusement,
c'est indéniable.
N'est pas très porteuse, hein, pour les événements culturels et puis tout ce qui relève évidemment d'une activité avec le public. Donc je souhaitais aussi saluer les remarquables prestations des grands amateurs programmés lors de ce festival musical au Palais 2021. Nous allons donc écouter maintenant la sonate numéro 8 en la mineure 410, interprétée par François Schwarzentruber, le premier mouvement Allegro Maestoso.
Thank you.
La sonate numéro 8 en la mineure K310 et son premier mouvement Allegro Maestoso interprété par François Schwarzentruber, la pièce qu'il a magnifiquement jouée lors du concert Intermède en clair-obscur dimanche après-midi au Palais Niel. Voilà donc pour cette 6e édition très réussie de Musique au Palais. Rendez-vous maintenant en novembre 2022. Nous enchaînons avec le concert donné samedi en fin d'après-midi à la Halle aux Grains par l'Orchestre National du Capitole. Un concert du cycle Happy Hour. Serge Chosy, vous y étiez. Il y avait une seule pièce au programme qui a été dirigée par un chef américain dont c'était la première à la tête de l'ensemble symphonique toulousain. Qui était ce chef et quelle pièce a-t-il dirigée à cette occasion ?
Eh bien, ce chef américain s'appelle Robert Trevino, et donc c'était effectivement sa première venue à Toulouse. Donc, il est directeur musical de l'Orchestre National Basque, conseiller artistique de l'Orchestre de Malmö. Enfin, il occupe plusieurs postes importants, hein, et il est invité à l'Orchestre Symphonie de la RAI en particulier. Et donc, ce qu'il a présenté, c'est la première symphonie de Gustav Mahler, mais dans une version que, pour ma part, j'entendais en concert pour la première fois. Puisque cette symphonie existe en plusieurs versions. Il avait d'abord composé une sorte de poème symphonique en 5 mouvements, dans lequel il y avait un mouvement intitulé « Blumine » qu'il a supprimé plus tard à la suite des critiques de certains beaux esprits de l'époque qui n'avaient pas apprécié. Et donc, évidemment, Robert Trevino a réintégré « Blumine », ce qui est une belle initiative, puisque c'est un mouvement court, hein, mais un mouvement d'une tendresse incroyable au milieu de cette symphonie qui peut être très bruyante au bon sens du terme, hein, surtout pour la fin. Donc, alors, le premier mouvement a eu un peu de peine, à s'organiser, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une gêne due à des arrivées tardives de certains spectateurs.
On a eu du mal à démarrer.
Krzyzewski, vous étiez dans l'orchestre, je ne l'ai pas précisé.
Donc, je suis sûr que ça a dû gêner.
Oui, ça a été malheureusement...
Ça a perturbé la concentration.
Des déplaisirs
des aléas du spectacle vivant.
Du direct, voilà. Mais oui, effectivement, mais après, c'est parti.
Non, mais des Blumines, ça a été magnifique. Vraiment une belle exécution, très transparente, très dominé, donc vraiment très bien, avec notamment un solo de contrebasse qu'il faut saluer.
Oui, Pierre Ecke, oui.
Voilà, très très bien, avec le Bruder Jakob en allemand, mais c'est notre frère Jacques, hein, français, oui. En mineur quand même. Hein,
Jacques, le frère Jacques Callot, en l'occurrence, puisque c'est à la manière de Marche funèbre, à la manière de Jacques Callot, qui était aussi présent dans Gaspard de la Nuit,
le même jour.
À travers Aloysius Bertrand.
Oui, c'est marrant d'ailleurs que le samedi, entre le début de l'après-midi et la fin, voilà. Il a été présent dans les deux cas.
Ah oui.
Une fois chez Ravel, une fois chez Mahler, c'est pas la même chose. Peut-être Serge Krzyzewski, un mot sur ce chef.
Alors, c'était une autre première, effectivement. Alors, j'ai un point de vue assez contrasté. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a une efficacité. Bon, il vient des États-Unis, un très bon professionnalisme. Je ne sais pas pourquoi il me manque quelque chose. C'est très, très difficile à expliquer.
Il faudra peut-être le revoir, tout simplement.
J'espère qu'on le reverra, parce que c'est quelqu'un qui a des choses. Non, il a bien mené le travail. Mm-hmm. Nous avions eu l'occasion de jouer Blumine avec Michel Plasson, mais de façon isolée.
Oui. Voilà.
Pas incluse effectivement à la symphonie. Alors, comme dans la troisième symphonie, bon, Mahler explore des univers très différents dans chacun des mouvements. C'est souvent un moment un peu pastoral. Il y a aussi dans le premier mouvement la marche funèbre, précisément le mouvement lent avec la contrebasse, et puis un moment beaucoup plus de combat qui est le final.
Alors Serge Chosy, je vous redonne la parole, là. Je vous ai coupé dans votre élan sur vos commentaires de ce concert.
Très bien, vraiment. Alors, il faut quand même préciser que dans le mouvement Blumin, il y a un rôle particulier joué par la trompette, hein,
oui,
qui a un solo. Et là, René Gilles Rousselot a brillé, évidemment, comme d'habitude. Hein, c'est un excellent musicien. Et puis le final, Stürmisch bewegt, c'est-à-dire donc tourmenté et agité. Alors là, qui m'a rappelé l'anecdote de Gustav Mahler visitant les chutes du Niagara, et devant le fracas de ces chutes, il s'est exclamé « Enfin un fortissimo oui. !» Eh bien, c'est exactement ce que l'on observe dans ce final qui a été très très bien dominé par le chef et par l'orchestre. Et donc, une très belle après-midi.
Voilà, et encore une première, semble-t-il, tout de même assez réussie pour Robert Trevino à la tête de l'Orchestre National du Capitole. Alors, ce concert a été enregistré, on peut le réécouter dans son intégralité sur la chaîne YouTube de l'Orchestre National du Capitole. On voit un extrait, le début du deuxième mouvement, Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell, la symphonie numéro 1 en ré majeur titan de Gustav Mahler, telle que l'ont interprété samedi soir les musiciens de l'Orchestre du Capitole sous la direction de Robert Trevino. Le début du deuxième mouvement Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell de la symphonie numéro 1 en ré majeur titan de Gustav Mahler, interprété par l'Orchestre National du Capitole dirigé par Robert Trevino. C'était samedi dernier à la Lohgrin. Fin de ce retour arrière de cette première partie d'émission. Petite pause habituelle avant de retrouver Serge Chosy et Serge Krichewski pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et l'on retrouve Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, président de Musique au Palais. L'agenda de Mélomanie, c'est d'abord le deuxième concert de la saison de Toulouse Guitare, la série fondée par Thibaut Garcia. Ce deuxième concert de la saison a lieu salle du Sénéchal et il va nous donner l'occasion d'y entendre pour la première fois à Toulouse Zoran Dukic ce vendredi 3 décembre à 20h. Ce concert devait être donné il y a un an. Il avait fallu le reporter en raison de la crise sanitaire et du confinement en cours à cette époque. Alors Serge Chosy, quel programme propose vendredi le grand guitariste croate ?
Alors, Zoran Dukic donc, va jouer d'abord du Bach, et donc sicilienne, andante, largo, sarabande, et puis du Bogdanovic, que j'avoue ne pas connaître, donc compositeur apparemment de la même nationalité que Zoran Dukic, puis du Piazzolla, tout simplement, avec notamment une des saisons de Piazzolla, et puis quatre pièces de Piazzolla, et puis des pièces de Barrios, donc qui est brésilien, donc, puisqu'il y a un Choro de Saudades, qui est typiquement brésilien, et Casa Pa, donc deux pièces de Barrios. Donc, un programme très varié, très ouvert. Hein. Et puis,
avec beaucoup de transcriptions qu'il a réalisées lui-même, évidemment, pour la guitare.
Bien sûr. Et puis, n'oublions pas que, comme tous les concerts de Toulouse Guitare, la première partie...
Alors, j'allais vous poser la question.
Est donnée par un jeune ou une jeune élève, en l'occurrence, une élève qu'on a déjà vue en première partie, qui s'appelle Alicia Stube, et qui avait vraiment magnifiquement joué la dernière fois. Donc, on est très heureux de la retrouver comme vedette américaine, en quelque sorte, de Zoran Dukic.
Oui, ça, c'est la grande particularité de ce cycle de Toulouse Guitare, mettre en avant en première partie un ou une jeune guitariste encore en conservatoire, ou parfois même qui est déjà dans des cycles supérieurs.
Oui. Mais c'est une très belle initiative.
Un petit peu comme un Musique au Palais, on va dire.
Oui, d'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'on en retrouve bientôt à Musique au Palais de ceux qu'on voit actuellement à Toulouse Guitare, en tout cas qu'on voit depuis quelques années. Eh bien, nous allons écouter Zoran Dukic dans ses grandes œuvres. Il interprète ici le célèbre Adios Nonino d'Astor Piazzolla. Adios Nonino d'Astor Piazzolla, interprété par Zoran Dukic, le guitariste croate, va donc se produire en récital vendredi 3 décembre à 20h, salle du Sénéchal, dans le cadre de la saison Toulouse Guitare. Il présente un programme Bach Piazzolla Bogdanovich Barrios et on pourra entendre en première partie la jeune Alicia Stube. Direction maintenant la Halle aux Grains pour retrouver l'Orchestre National du Capitole et Tougan Sokiev, samedi 4 décembre à 20h. La soirée est entièrement consacrée à Hector Berlioz. On parle beaucoup de Berlioz depuis quelque temps à Toulouse. Et donc, deux œuvres vont être données par la phalange toulousaine avec le renfort d'autres artistes. Je vais laisser Serge Ozy présenter les deux œuvres au programme, le chœur, le récitant et les solistes invités samedi à la Halle aux Grains.
Eh bien, ce sera pour moi une première que d'entendre au sein du même concert, la Symphonie Fantastique et sa suite. Et sa suite, Berlioz l'a titré « L'Hélio ou le retour à la vie ». Donc à la suite des pérégrinations de l'artiste dans la Symphonie Fantastique, eh bien, les choses se terminent plutôt bien. Et donc l'Hélio, c'est une sorte d'oratorio incroyable, avec un chœur, donc un récitant et deux solistes. Et donc le chœur, eh bien, on retrouvera un chœur que l'on connaît bien à Toulouse, l'Orfeon Donostiar, toujours le même.
Une vieille collaboration, une ancienne collaboration, date de Michel Plasson.
Oui, absolument. Donc on est très heureux de les retrouver. Et les deux chanteurs solistes, ce seront d'une part...
Mathias Vidal, ténor. Et Vincent Le Texier, bariton basse.
Qui chanteront les rôles de Horatio pour le premier et le capitaine de brigand pour le second. Donc, et puis il y a un récitant connu puisqu'il s'appelle Lambert Wilson. Et donc, ça sera
On a mis les petits plats dans les grands. Là.
Ah oui, là, tout à fait. Oui. Alors donc, c'est une bonne chose d'entendre enfin réunis ces deux œuvres qui sont faites pour l'être réunies.
Oui, alors ce concert a été intitulé « Révolution Berlioz, Berlioz de révolutionnaire, Berlioz d'incompris ». Serge Tchaïkovski, vous adhérez à cette vision du compositeur ?
C'est difficile de dire non, parce que c'est quand même un compositeur. La révolution berliozienne, en général, on l'associe à la révolution de l'orchestre. C'est-à-dire que la manière d'écrire pour l'orchestre, Berlioz lui-même a écrit un traité d'orchestration très développé, une manière complètement nouvelle qui est nécessaire pour habiller des idées neuves, vraiment musicalement, des formes, la première grande symphonie à programme, en tout cas avec un programme ouvertement... publié, donc la symphonie fantastique, et puis après voilà toutes ces ouvertures vers l'introduction du chœur, du théâtre shakespearien dans Roméo et Juliette, l'alto principal dans Harold en Italie, toutes les nouveautés que Berlioz pourra insuffler jusqu'à sa mort et qui ouvriront la voie, alors en termes purement orchestral, qui ouvriront la voie à Strauss et Wagner, et qui ouvriront la voie aussi à Liszt pour l'écriture, pour l'harmonie, pour toutes les nouveautés.
Eh bien, pour le plaisir, voici une nouvelle fois un extrait du célèbre bal de la Symphonie fantastique d'Hector Berlioz, une version de l'Orchestre National du Capitole, dirigée par Tougan Sokiev. Le bal de la Symphonie fantastique d'Hector Berlioz, interprété par l'Orchestre national du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev. Vous allez retrouver cette même œuvre jouée par ces mêmes musiciens, dirigée par ce même chef, samedi 4 décembre à 20h à la Halle aux Grains. Au programme également, une autre œuvre de Berlioz, L'Hélio ou le retour à la vie. Et le lendemain, dimanche 5 décembre, et oui, on enchaîne encore à la Halle aux Grains, mais à 18h, vous avez rendez-vous avec Thibaut Garcia, notre jeune et brillant guitariste toulousain que nous évoquions il y a quelques minutes en vous présentant le concert de Zoran Dukic à Toulouse Guitar. Eh bien, Thibaut est en concert pour le compte de la saison des grands interprètes, mais il n'est pas seul. Il accompagne un contre-ténor français très connu qui est ce chanteur, Serge Chosy.
Oh bien, évidemment, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Philippe Jarouski. Donc, et tous les deux donc, se sont rencontrés, ont même réalisé un album discographique qui s'appelle « À la guitare hein. ».
À sa guitare.
À sa guitare.
Oui, c'est le titre d'une œuvre de Francis Poulin, qui d'ailleurs est sur cet album.
C'est vrai, « À sa guitare », en effet.
Label Erato Warner Classic, voilà, précisons-le.
Et donc, c'est un peu ce programme qu'ils vont donner, qu'ils vont offrir au cours de ce dimanche, en fin d'après-midi. Un programme extrêmement varié. Hein,
alors ça, il y a une multitude de pièces et de compositeurs très différents. Alors là, on brosse quatre siècles de
toute
de
l'histoire
musique.
De la musique, depuis John Dolan, Henry Purcell, jusqu'à Rossini, Schubert, Garcia Lorca et Barbara. Donc,
il y a même Barbara, effectivement. Oui, oui, oui. Il y a Luis Bonfa et le fameux Mania di Carnaval, vous savez, le film Orfeo Negro, voilà. Est connu pour ce film, en tout cas.
Bien sûr.
Il y a, vous avez dit du Schubert, du Rossini, du Francis Poulenc, bien sûr, à sa guitare, même du Garcia Lorca, du Gabriel Fauré, donc il y a de la mélodie française, il y a des airs d'opéra.
Oui, oui.
Enfin, c'est, je crois qu'il y a une vingtaine de pièces en tout. Hein.
Oui, 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 c'est colossal comme programme.
Toutes voilà, les époques, tous les continents.
Exactement.
Oui, alors peut-être pas tous les continents, mais pas loin. Il n'y a pas le continent africain. Je ne crois pas, ni asiatique, a priori. Mais effectivement, il y a l'Amérique du Sud, l'Europe, bien sûr.
Mania di Carnaval, c'est de Bonfa.
Oui, donc, le Brésil, vous est si cher, Serge Chosy, le Brésil qui vous est si cher.
Oui.
Voilà, donc une vingtaine de pièces au programme de ce concert à la Lograin dimanche. Inutile de vous dire que j'ai eu l'embarras du choix pour vous faire écouter l'une d'entre elles, interprétée par le duo Thibaut Garcia, Philippe Jarouski. Alors, on peut parler de crossover, vous savez, lorsqu'un chanteur lyrique va chanter de la chanson de variété ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, Philippe Jarouski, lui, propose sur cet album une version de Septembre, la chanson célèbre de Barbara. On l'écoute accompagné à la guitare par Thibaut Garcia. Septembre, chanson de Barbara interprétée par Philippe Jarouski, accompagnée par Thibaut Garcia. C'est une des pièces au programme du concert que donnent le contre-ténor et le guitariste dimanche 5 décembre à 18h à la Lograin. pour le compte de la saison des grands interprètes. Dernier événement que nous souhaitions vous annoncer, et il s'agit déjà d'un concert de Noël, celui du Consort Apollon, lundi 6 décembre à 20h30 à l'église Saint-Nicolas dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse. Il y a quelques semaines, nous avions reçu dans cette émission Clément Lanfranchi, le fondateur et directeur musical de cet ensemble sur instruments anciens, et nous avions dit un peu tout le bien que nous pensions de ce tout jeune orchestre. Quel programme propose-t-il lundi à l'église Saint-Nicolas, Serge Chosy ?
Eh bien, un programme qui n'est pas un programme de musique de chambre comme le dernier concert qu'il avait donné à trois personnes. Là, il retrouve l'ensemble du consort. Et là, il donne trois œuvres, toutes liées à Noël, à l'époque de Noël, avec d'abord de Torelli, un concerto à quattro, donc en forme de pastorale pour le Saint Natal,
oui, Santissimo
Natal. Et puis un concerto grosso pour la nuit de Noël de Corelli, là on s'y attendait, hein, c'est une obligation, c'est vraiment la pièce de Noël qu'on entend très souvent. Et puis de Marc-Antoine Charpentier, quand même, musique française, Noël sur les instruments, donc il sera également donné donc, dans cette église Saint-Nicolas, dont il faut préciser qu'elle est chauffée, oui. Et chauffée en silence.
Précision importante, effectivement, chauffage fonctionne très bien. On n'a pas froid, vous pouvez y aller, il n'y a pas de risque. Et effectivement, il n'est pas bruyant, ce chauffage.
Ah, pas du tout.
Donc, il ne gêne pas du tout l'écoute, qui malheureusement parfois est le cas. Oui. Là, il n'est pas nécessaire de chauffer avant, puis d'éteindre au moment du concert. Le chauffage restera donc en action pendant toute la prestation des musiciens. Parmi les trois œuvres au programme du concert du Consort Apollon le 6 décembre à l'église Saint-Nicolas, il y a donc le Concerto Grosso opus 6, numéro 8, Fatto per la notte di Natale d'Arcangelo Corelli. Son deuxième mouvement Adagio est très célèbre. En voici une version de l'Académie Saint-Martin in the Fields, dirigée par Neville Mariner. Le deuxième mouvement magnifique adagio du Concerto Grosso opus 6 numéro 8 Fatto per la notte di Natale d'Arcangelo Corelli dans une version de l'Académie Saint Martin in the Fields dirigée par Neville Mariner, Sir Neville. C'est donc une des trois œuvres au programme du concert de Noël que donne le Consort Apollon sous la direction de Clément Lanfranchi lundi 6 décembre à 20h30 à l'église Saint-Nicolas de Toulouse. Je rappelle que cette église est très bien chauffée, donc n'ayez pas peur d'avoir froid. Et je signale que ce concert est enregistré par Radio Présence en vue d'une diffusion sur nos ondes. À Noël ou un peu avant, nous vous annoncerons la date exacte de diffusion dès que cette information sera disponible. Il nous reste un peu de temps, alors vous avez des choses à nous annoncer, l'un et l'autre. Serge Chosy, d'abord, jeudi, il y a quelque chose à midi et demi à la salle du Sénéchal à Toulouse.
Voilà, un concert de la série La Pause Musicale, qui est une série de concerts gratuits, il faut le dire, salle du Sénéchal donc, et à laquelle participe l'ensemble Les Sacboutiers, et dans un programme très particulier, dont je ne vous donnerai pas les détails, mais pour lequel ils sont associés à l'accordéoniste Grégory Daltin et au guitariste Benoît Albert, que l'on connaît bien, Benoît Albert, puisque c'est...
Alors c'est un des piliers de la saison Toulouse Guitare.
Toulouse Guitare,
c'est un enseignant au Conservatoire de Toulouse, excellent professeur de guitare.
Oui, en effet. Et donc, bien, ce sera le moment de découvrir cette association bizarre entre les instruments anciens des Sacoboutiers, les cuivres anciens, un accordéon et une guitare.
Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont tous excellents musiciens. Donc
ah oui,
le
oui,
résultat devrait tout de même
bien
s'en ressentir favorablement.
Voilà, et c'est salle du Sénéchal. Donc.
Voilà, pour la pause musicale à midi et demi, jeudi 2 décembre, à la salle du Sénéchal de Toulouse. Et puis donc, Serge Krzyzewski, vous vouliez nous annoncer le prochain concert de l'Orchestre en Harmonie que vous dirigez. Et c'est dimanche.
Absolument. Donc, on a le plaisir de collaborer avec la mairie de Gagnac depuis la fondation de l'orchestre en 2011. Et donc, nous rejouerons après cette période de Covid, donc dans l'espace Garonne, dimanche à 16h. Alors, nous aurons la symphonie La Poule, magnifique symphonie des Parisiennes de Haydn, donc symphonie 83. Nous aurons une collègue très brillante, Fujie, qui va jouer le concerto en la mineur de Jean-Sébastien Bach pour violon. Et puis, une petite curiosité que j'ai découverte pendant les vacances sur les ondes de France Culture, l'ouverture du Barbier de Séville, mais non pas de Rossini, de Giovanni Paisiello, grand compositeur d'opéra de l'époque mozartienne, enfin vraiment quasiment les mêmes dates que Haydn à quelques années près. Une écriture très vive qui anticipe sur Rossini, un compositeur qui était très doué pour l'opéra, pour le théâtre et qui est allé jusqu'en Russie pour travailler plusieurs années, qui était, je crois, napolitain ou en tout cas grand compositeur de l'époque classique.
Et donc c'est pour la bonne cause ce concert, hein.
Absolument, le Téléthon, chaque année, la mairie de Gagnac offre au Téléthon la recette des concerts. Donc venez nombreux dans une salle très accueillante, l'espace Garonne, à 16h.
Dimanche 5 décembre,
merci.
5 décembre, merci beaucoup. Le dimanche à 16h à Gagnac. Donc ce concert au profit du Téléthon par l'Orchestre en Harmonie. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie. Et donc le moment pour moi de remercier ceux qui m'ont assisté dans son animation, Serge Chosy et Serge Krzyzewski, les deux Serge, comme j'aime à les appeler. Merci encore une fois pour tout ce que vous apportez à cette émission depuis ses débuts, depuis 2017. Je rappelle que le deuxième concert de la saison Toulouse Guitare est donné par le guitariste Zoran Dukic avec un programme Bach, Piazzolla, Bogdanovic, Barrios, vendredi 3 décembre à 20h, salle du Sénéchal à Toulouse. En première partie, il y a la jeune guitariste Alicia Stubet. Les places sont à réserver et à acheter en ligne sur le site www.toulouseguitare.fr. Pour le concert de l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tugan Sekies, samedi 4 décembre à 20h à la Lograin, avec la Symphonie Fantastique et l'Hélio ou le Retour à la vie d'Hector Berlioz au programme. Je vous invite à réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Pour le concert de Thibaut Garcia et Philippe Jarouski, le lendemain à 18h, dimanche 5 décembre, toujours à la Lograin, c'est sur le site des grands interprètes qu'il faut vous connecter pour vos réservations et achats de places en ligne, www.grandsinterprètes.com. Et enfin, s'agissant du concert de Noël du Consort Apollon, qui joue des œuvres de Torelli, Corelli et Charpentier lundi 6 décembre à 20h30 à l'église Saint-Nicolas de Toulouse, pas loin de Radio Présence, ce sera sous la direction de Clément Lanfranchi. Le site auquel se connecter pour réserver est disponible à l'adresse www.leconsortapollon.com. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de votre fidélité et excellente semaine musicale à tous.